Bonjour, vous êtes sur Radio B 90.0, vous écoutez Les Bonnes Ondes, vous êtes aussi dans l'émission Musique au pluriel. Alors ce jour, nous sommes deux, Bruno Point et moi, mais l'absent Paul Turchet est présent dans ses écrits que je lirai au fil de l'émission. En me plongeant dans l'univers musical de Ludwig, je ne me suis pas noyé, mais envolé. Envolé vers un ciel serein, envoûté, tourmenté, calme et mystérieux. J'ai rejoint et écouté ce novateur génial, ce travailleur acharné et aussi ce praticien des notes, rigoureux, ardent, intransigeant. Je vous lirai quelques lignes qu'il a pu écrire pour mieux témoigner de sa véritable vocation musicale, je dirais aussi philosophique. Il nous dit « La musique est une révélation plus haute que toute sagesse et toute philosophie. » Il a pu écrire « Je n'ai jamais pensé à écrire pour la gloire et les honneurs. Ce que j'ai dans le cœur, il faut que ça sorte. Voilà pourquoi j'écris. La musique est le climat de mon âme. Chaque phrase musicale et un trône de la passion, et la passion elle-même est le trône de la musique. » Alors que son mécène de l'époque, un prince, lui demande de jouer pour distraire les soldats français stationnés dans son château, ceci en 1806, réquisitionné par les troupes françaises de Napoléon, Beethoven refuse sous la menace d'être mis aux arrêts et envoie à son hôte, après une violente querelle, un billet qui se passe de tout commentaire. « Prince, ce que vous l'êtes par le hasard de la naissance. Ce que je suis, des princes, il y en a, et il y en aura encore des milliers. Il n'y a qu'un Beethoven. » Donc Paul a pu écrire, hein, c'est aujourd'hui cette dernière émission sur Beethoven, il a pu nous parler de la surdité de Beethoven, entre autres. Donc ce Beethoven souffre d'acouphènes depuis l'âge de 26 ans et prend conscience d'être affecté d'une surdité qui progressera jusqu'à être totale. Songeant au suicide, il rédige en 1802, je rappellerai qu'il est né en 1770, son testament dit de Heiligenstal que l'on retrouvera après sa mort. Je vous en cite un extrait que Paul a pu bien évidemment nous donner. C'est l'art et lui seul qui m'a retenu. Il me paraissait impossible de quitter le monde avant d'avoir donné tout ce que je sentais germer en moi. Maintenant, je donne la parole à Bruno Point qui va bien sûr nous emmener auprès de Ludwig.
Ludwig, c'est un compositeur qui parle aux hommes. Le sujet aujourd'hui, c'est d'entendre dans ses musiques le message qu'il nous donne. Il y a plusieurs sortes ou plusieurs familles de musique. Il y en a qui cherchent le beau, il y en a qui cherchent l'émotion, qui communiquent la joie, qui expriment les émotions. Et puis, si je prends des exemples aussi plus proches de nous, il y a des grandes chansons qui nous racontent une histoire, nous dressent un tableau, nous dépeignent une aventure. Dans les grands opéras, je pense à Mozart, il y a le compositeur apporte la musique à des pièces de théâtre. Il crée une œuvre qu'on pourrait qualifier de totale, musique et émotion théâtrale. Dans la musique pure, et Beethoven est un exemple magnifique, il n'y a pas la parole, mais il y a l'expression et il y a tout ce qu'il faut pour que nous comprenions un message. Il suffit d'écouter. Et Beethoven est vraiment l'archétype de ce compositeur qui nous a délivré un message, qui nous parle de l'homme, qui nous parle de l'humain au travers d'une musique qu'il faut écouter avec beaucoup d'attention. Nous allons commencer par une des dernières œuvres, la 32e sonate, en tout cas la dernière sonate. Beethoven a alors 52 ans, je vous rappelle qu'il va vivre jusqu'à l'âge de 57 ans, il est donc tout à fait dans sa pleine maturité, on pourrait même dire presque à la fin de sa vie. Il est malade, il a souffert, il est sourd, mais il est dans sa musique. Et sa 32e sonate est vraiment une œuvre complètement musicale, complètement loin de tout, et en particulier l'arietta que nous allons écouter. L'arietta nous change complètement les discours totalement violents que Beethoven nous a fait entendre tout au long de sa vie. Après un premier mouvement qui, lui, est violent, l'arietta est quelque chose de magnifique. Il s'appelle « Adagio molto semplice e cantabile ». Ça veut dire qu'il est lent, avec beaucoup de simplicité et très chantant. Je vous propose d'écouter le thème, parce que dans cette arietta, Beethoven développe un thème suivi de variations sur le même thème. Nous allons donc écouter le thème. Ce thème exprime une question sur la vie, le sens de la vie, les interrogations qui sont celles des hommes. Et nous allons maintenant écouter des variations avec un enrichissement du thème, une expression d'un questionnement, et puis le débat apport de réponse, en apportant de la beauté, de la quiétude. Beethoven nous dit là, il y a des beautés, apaisez-vous. Prenant toujours le même thème, sous la forme de variations et d'enrichissements, quelque part, Beethoven nous ramène dans un territoire connu. Nous l'avions quitté, mais nous le retrouvons. C'est comme revenir à la maison après l'inquiétude dans un territoire inconnu. Thank you. vont suivre des variations plus mouvementées, où l'on entendra et comprendra que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais si l'on regarde à l'avant du bateau, et si l'on suit l'écoute, on verra le rivage et on sentira la sérénité. Les variations vont se poursuivre. Je vous invite bien sûr à écouter ce mouvement, cette arietta, dans sa totalité, car ici nous le coupons, nous le déshabillons pour en percevoir l'évolution. Et il va se conclure. Il va se conclure dans une expression on ne peut plus simple de l'énoncé de départ. Le thème va revenir et va nous amener à une quiétude finale dans une grande simplicité. Thank you.
Paul nous invite à découvrir les quatuors qui, selon lui, sont le domaine privilégié de l'introspection. Il peut nous dire « Beethoven a écrit des quatuors tout au long de sa vie, de 1798 à 1826, 16 quatuors plus la grande fugue. Cette forme musicale, presque austère, est l'essence même de la musique sans complaisance. On peut parler de la musique pure, et cette formation correspond bien à Beethoven et sa recherche d'absolu. »
D'abord, qu'est-ce qu'un quatuor ? Un quatuor, c'est quatre instruments et donc quatre instrumentistes. Il peut y avoir de multiples quatuors. Nous entendons de temps en temps un quatuor de saxophone, un quatuor de flûte. Mais il y a aussi, presque passé dans le langage courant, ce que nous appelons le quatuor, c'est le quatuor à cordes. Quatuor à cordes, ce sont deux violons, un alto et un violoncelle. Et tout cela forme une unité extrêmement importante, puisque ces quatre instruments à cordes se parlent, se fondent, et l'instrumentiste a un rôle évidemment extrêmement important, mais surtout le groupe de ces quatre instrumentistes, car ils doivent se connaître, travailler ensemble, et les grands quatuors sont des gens qui vont travailler ensemble pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, quelquefois toute leur vie. Parce qu'il faut absolument fusionner. C'est l'avantage de l'instrumentiste seul. Le pianiste, le violoniste, étant seul, il est autonome. Il est la totalité en lui-même. Là, quatre personnes doivent se fondre, jouer une œuvre, évidemment en même temps, mais au-delà de ça, fondre la musique pour ne faire qu'un seul instrument, qu'on va appeler le quatuor. Beethoven a écrit donc 16 quatuors plus une pièce qui s'appelle La Grande Fugue. Nous allons écouter le 13e quatuor. C'est l'opus 130, il a été écrit en 1825, c'est-à-dire que Beethoven a 55 ans, nous sommes dans les derniers quatuors. Et nous allons écouter la cavatine. Qu'est-ce qu'une cavatine ? C'était un air de musique chanté qui reliait à l'intérieur des opéras des scènes différentes. C'était un peu un lien. Là, en l'occurrence, cette cavatine, elle nous donne l'impression du chant et elle relie le 4e et le 6e mouvement, puisque c'est le 5e mouvement. Beethoven a dit que cette œuvre, cette cavatine, l'émouvait. Il a lui-même dit que lorsqu'il l'écoutait, elle lui donnait des sons de mélancolie. C'est une œuvre à laquelle il était très attaché et probablement une des plus abouties et des plus tendues dans l'introspection, c'est-à-dire dans le regard à l'intérieur de lui-même, de ses émotions. Je vous propose donc d'écouter cette cavatine du 13e quatuor.
Paul Turchet nous invite à découvrir le Beethoven amoureux. Il nous dit « Beethoven n'a jamais eu de chance dans sa vie amoureuse. Nombreuses sont les femmes que son génie a séduites, mais aucune n'a franchi le pas du mariage. Sans doute, effrayé par son caractère difficile et le peu de soin qu'il prenait à sa personne, son seul opéra, Fidelio, le triomphe de l'amour conjugal. » La lettre à l'immortel bien-aimé. Il s'agit de trois lettres qui ne furent pas envoyées, rédigées le 6 et 7 juillet 1812, alors que Beethoven suivait une cure thermale en Bohême. Leur destinataire était une femme dont le compositeur était amoureux et dont l'identité demeurera inconnue. Extrait de ces lettres. Le 6 juillet au matin. Mon ange, mon tout, mon moi, peux-tu faire autrement que tu ne sois pas toute à moi et moi à toi? Le lundi soir, du même 6 juillet, notre amour n'est-il pas un véritable édifice céleste et aussi solide que la voûte du ciel? Au beau matin, le 7 juillet, au lit, mes pensées se pressent déjà vers toi, mon immortel bien-aimé, parfois joyeuse, puis de nouveau triste, demandant au destin s'il nous exaucera. Vivre, je ne le peux qu'entièrement, avec toi ou pas du tout. Ludwig, éternellement à toi, éternellement à moi, éternellement à nous. Qui est cette femme? La comtesse Giulietta Guicciardi, Amalie Selbald, la comtesse Anna-Marie Erdodi, Anthony Brentano ou Joséphine von Brunswick? Romain Rolland écrit qu'elle aime Beethoven depuis 1806 et qu'ils se seraient fiancés cette année-là. L'hypothèse des époux Massin, musicologue, s'appuie sur la naissance, le 9 avril 1813, soit 9 mois après l'écriture des lettres, d'une fille de Joséphine nommée Minona, ce qui inversé se lit anonyme, qui ne peut être un enfant légitime car le baron réside en Estonie entre janvier et octobre 1812.
L'expression des voix féminines et l'expression de l'amour se fait au travers essentiellement de l'opéra ou des lieder. Beethoven n'a écrit qu'un seul opéra, mais il a écrit une très grande œuvre où apparaissent les voix, œuvre religieuse qui est la Missa Solemnis. Beethoven est croyant, mais il n'est pas un pratiquant assidu de la religion, mais il est croyant. Pour lui, Dieu est la force des dispositions d'esprit à la paix intérieure par-dessus tout. Et il est surtout empreint d'une grande spiritualité. Je vous propose que nous écoutions dans la Missa Solemnis le Benedictus, qui est entièrement guidé par une voix féminine absolument sublime, où d'ailleurs nous retrouvons sur le manuscrit écrit par Beethoven « Venu du cœur ». Puisse-t-il retourner au cœur. Cette œuvre est annonciatrice des grands compositeurs qui vont suivre, que sont par exemple Mahler et Richard Strauss, qui savaient exprimer la beauté des voix féminines. Et vous entendrez un duo violon et voix féminine. Vous entendrez de véritables sanglots de joie arrachés par la sensation du beau, les voix d'homme et de cœur ne faisant qu'accompagner la soliste.
Paul nous invite à redécouvrir la 9e symphonie. Elle est née le 7 mai 1824 et la célèbre Ode à la joie est alors donnée pour la première fois. Chacun des mouvements de cette symphonie se déploie et prend des proportions exceptionnelles. Le programme annonçait que le concert serait dirigé par le Kapellmeister du théâtre, assisté de Beethoven, et les chanteurs et musiciens avaient pour consigne d'ignorer les gestes du compositeur, presque totalement sourd. Il tournait les pages de sa partition et battait le tempo pour un orchestre qu'il ne pouvait pas entendre. À la fin, il avait plusieurs mesures de retard et continuait à battre la mesure. De ce fait, la contralto s'approcha et le fit se retourner pour recevoir les acclamations du public. Selon un témoin, le public a acclamé le héros musical avec le plus grand respect et sympathie, après avoir écouté ses merveilleuses et immenses créations avec l'attention la plus intense. Le public a éclaté en applaudissements de joie, souvent pendant différentes parties et à plusieurs reprises à la fin. Ce même public était debout faisant 5 rappels. Il y avait des mouchoirs en l'air, des chapeaux, des mains levées, de sorte que Beethoven, qui ne pouvait pas entendre ces applaudissements, pouvait au moins en voir les manifestations.
L'adagio de la 9e symphonie a le même principe que l'arietta de la sonate que nous avons écoutée tout à l'heure. Un thème d'une très très grande beauté, d'une grande simplicité, d'une grande tendresse, qui est exprimé sous forme de variation. Là, vraiment, nous sommes dans le Beethoven qui délivre un message aux humains, et un message de paix. Beethoven a 53 ans, après une vie tourmentée, toutes les passions que nous avons exprimées, Beethoven veut ressentir la joie, veut ressentir la sérénité, et veut transmettre aux hommes un message de paix, un message de bien-être, un message d'humanité. Et cet adagio est véritablement un message de paix intérieure qu'il entend nous communiquer.
Thank you.
exprimer autant de quiétude, autant de sérénité, un message de beauté, alors que, n'oublions pas, Beethoven était alors sourd, malade, seul, isolé, plein de souffrance, et bien la preuve qu'il délivre aux hommes, à nous tous, un message de paix, un message de bonheur, un message de quiétude dans la vie, de confiance dans la vie. Cette confiance, il va l'exprimer dans le mouvement qui suit, qui est bien connu et qui s'intitule « L'hymne à la joie ». Il faut savoir que, avant de s'intituler « L'hymne à la joie », il s'intitulait « Hymne à la liberté ». Hymne à la liberté, car Beethoven est vraiment l'enfant de la Révolution, l'enfant de la Révolution française. Il croyait profondément en le besoin de fraternité, en l'égalité, en la liberté, mais aussi à la fraternité. Et c'est ceci qu'il nous exprime dans cet hymne à la joie.
Nous allons terminer nos émissions sur Beethoven avec la sublime ouverture Egmont, dirigée par Léo Ferret. Léo Ferret, sur laquelle, cette ouverture, il déclame. Nous poursuivrons donc avec Ferret, grand homme du XXe siècle, en mettant l'accent sur sa composition personnelle et son œuvre musicale que nous prendrons plaisir à découvrir ou de redécouvrir. Léo Ferret, grand musicien au-delà du chanteur connu et de cette icône largement médiatisée et politisée, Ferret, face à sa propre création musicale, sera donc, dans Musique plurielle, notre prochain espace d'écoute et de rencontre dès le premier mois de l'année à venir. À bientôt donc, et bonne fête à vous tous et toutes.
Au fond d'une guitare enragée à l'automne, il y avait du sang comme un dièse mouillé. C'était un bonne au détour d'une rue. parler de cette romance en allée dans la rue, avec ses habits du dimanche, alors que la semaine s'étire un peu mieux, au bout de l'incertain et du tragique, s'il fallait chanter cet éternel recommencement qui tient de l'habitude et du savoir constant et vérifié par les arbres, par les crépuscules teints, par les regards cachés derrière la pensée perverse ou religieuse, s'il fallait dire un peu de cette insouciance et qui nous mène au jardin des faillites et de la solitude, s'il fallait, alors remonterait du fond de nos cagibis inconscients, du fond de notre vouloir le plus profond, la certitude. Le temps précis et incalculé est toujours indemne. Alors, s'emballerait notre habitude retenue par la défense de s'insurger, de s'éprendre, de s'illusionner. Coriolan n'était qu'un prétexte. Egmont, parlons-en. Tu te souviens, sur cette plage tout en gravier, cette plage défaite au nom d'une certaine compromission entre la mer et le spectacle, cette plage que tu voulais défaite et soumise à ton imaginaire chorégraphie d'enfant seul et triste. Tu t'en souviens, dis. Tu t'en souviens. Et tu chantais. 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 Et tu pensais qu'Egmont, c'était la mer. Le drame. Les larmes. La beauté de cet instant fabuleux de solitude exaucée, tu l'avais dit, et tu l'avais crié à ce prof impotent du verbe et de la grâce. Et tu t'étais caché, parce que tu étais seul au monde, et vaincu, et grinçant contre l'imbécilité secourue et protégée par la loi et par le nombre. Depuis, Egmont me remonte comme la mer. Après ces descentes impitoyables au fond des enfers et de la nature fidèle, Egmont, comme une source bienheureuse et coulant, comme une génération tout entière de bienfaits uniques, parce que tu es l'unique, parce que je t'ai donné l'unique, et ce temps qui s'est arrêté au bout de la seule invention de l'homme, devine. Je m'illusionne et je pars m'illustrant moi-même et me regardant à travers le style enfin parcouru au long de tous ces silences, de toutes ces vicissitudes interpolées par des copistes dont je me fais le modèle transmis d'on ne sait où et sans doute par voie orale. Quand je parle à l'illusion, je suis à bonne, sous-traitant la 14e symphonie chez un archiduc de mes prétendants.
Nous avons écouté au cours de cette émission le deuxième mouvement de la 32e et dernière sonate de Beethoven, jouée par Alfred Brendel, puis le cinquième mouvement, la cavatine du 13e quatuor, interprété par le quatuor Talisch, le Benedictus de la Missa Solemnis par le Chamber Orchestra of Europe, dirigé par Nikolaus Harnoncourt, et enfin, les mouvements Adagio et Hymne à la joie de la 9e symphonie de Beethoven par le Philharmonia Orchestra dirigé par Herbert Vodkerian. Et nous avons conclu par l'ouverture Egmont et les déclamations de Léo Ferré qui dirigeait l'Orchestre symphonique de Milan. Léo Ferré, qui sera notre prochain rendez-vous, musique au pluriel car il y a plusieurs musiques, et Léo Ferré sous l'angle du musicien. Nous laisserons le chanteur aux émissions qui traitent des chansons, des variétés, des penseurs, des philosophes, des poètes. Nous nous intéresserons au grand musicien qu'était Léo Ferré. À bientôt.